Bonjour. Ketmos a un réel savoir-faire pour transmettre des faits historiques, le cœur de ses romans. C'est de nouveau dans le sud-ouest de la France, entre Carcassonne et Toulouse, qu'elle nous entraîne avec le premier tome de cette trilogie huguenote, La Cité de Feu. Suivent La Cité des Larmes et Citadelle pour nous faire vivre cette période troublée du milieu du XVIe siècle. Ketmos est née à l'automne 61 dans le Sussex, au sud du Royaume-Uni. Son premier roman, Eskimo Kissing, est publié en 96, suivi en 98 de Crucifix Lane. Ce n'est qu'en 2005 qu'elle rencontre le succès international avec son roman Labyrinthe, dont j'avais fait une chronique à la fin de l'année 2000, et qui se déroule à Carcassonne. En 2007, on découvre Sépulcre, puis Fantôme d'hiver en 2010. Il faut attendre 2018 pour voir éditer un nouveau roman, celui que je vous propose de découvrir aujourd'hui. La Cité de Feu. Plus de 700 pages d'histoire, d'intrigues, de complots et d'amour. 1562, Carcassonne. Minou, Marguerite Joubert, s'occupe de la librairie de son père. Depuis le retour de ce dernier il y a quelques semaines, il n'est plus le même. Certes, le décès de sa femme Florence le laisse dans un immense abattement, mais c'est surtout l'enfer qu'il a vécu dans les geôles de l'Inquisition qui l'a changé. Et ça, Minou l'ignore. Tout comme le secret qui le ronge et qui pèse de plus en plus lourd sur ses épaules vieillissantes. Cette belle jeune fille, qui tient un rôle de mère dans ce foyer, croise le chemin de Piètre Raidon, un huguenot venu de Toulouse à Carcassonne pour vendre une relique chrétienne qu'il avait dérobée. Ainsi, il récupère une belle somme d'argent pour sa communauté qui souffre de ségrégation. Cette rencontre, vous vous en doutez, ne va pas rester isolée. Elle va même précipiter les doutes que Minou a déjà sur sa foi chrétienne. Les heurts entre chrétiens et huguenots s'intensifient. La vie est de moins en moins sûre dans la ville fortifiée. Par sécurité, Minou et son frère Aymeric sont envoyés chez leur tante, sœur de leur mère, à Toulouse, où le couple de notables mène une vie plus aisée et assez protégée. Mais des intrigues se trament. Ici aussi, il pèse une volonté certaine de voir les huguenots quitter la ville, et ce, malgré l'édit de tolérance qui est censé protéger leurs pratiques. Dans cette atmosphère de complot, Minou et Piette se croisent de nouveau, échangent quelques mots au sujet de la situation ardente et sondent dans le même temps leur cœur. La petite dernière de la famille, Alice, est restée à Carcassonne avec son père. Sa santé est fragile et elle n'aurait pas supporté le voyage. Mais pris d'une certitude inébranlable, Bernard, le père, décide de retourner dans le village de son passé afin de s'assurer que son secret est toujours bien gardé. Confiée aux soins d'une vieille amie de la famille, Alice reste donc seule, ou presque, abandonnée des siens. Alors, quand une femme arrive et lui assure que Minou lui a demandé de venir la chercher pour l'amener auprès d'elle, à Toulouse, l'enfant ne prête aucune attention à son intuition et suit cette belle dame. Mais évidemment, c'est un piège. Alice est emmenée à Puyvert, où tout a commencé, dans ce village du secret de la naissance de Minou. Mais n'en doutez pas une seule seconde, c'est bien d'une prise d'otage dont il s'agit. Peu après midi, Bernard Joubert entra dans le village en tirant un canigot derrière lui. La vieille jument avait perdu un fer et boitait à nouveau d'une de ses jambes antérieures. Il fut surpris de découvrir combien Puyvert lui était encore familier après une si longue absence. Il se rappelait exactement où les vergers se déployaient, au sud du village, où l'on pouvait entendre le fracas de l'enclume du forgeron et où le boulanger ramassait du bois pour son four. « Tout doux, ma belle » murmura-t-il en tirant légèrement sur la bride de canigot, qui s'arrêta avec lourdeur. Elle baissa le cou pour effleurer les naseaux, la terre sèche. Il régnait un silence étrange dans Puyvert. Un jeudi, le village aurait dû retentir du bruit des commérages et du commerce, des femmes allant porter un déjeuner de pain et de bière à leur époux qui travaillait au champ. Mais il n'entendait presque rien. Une légère inquiétude le prit. Et si la peste était revenue? Il jeta un coup d'œil autour de lui et ne vit aucun signe peint sur les portes pour prévenir qu'une maison était infectée. Puis le silence fut brisé par le tintinabulement des grelots d'un troupeau de chèvres à flanc de coteau. Néanmoins, cela restait étrange. Bernard s'avança dans la grande rue, qui était à peine plus qu'une piste. Il attacha l'animal à un arbre sur le pré communal, puis se dirigea vers la vieille maison blanche à l'autre extrémité de la rue. La dernière fois qu'il y avait mis les pieds, c'était à la Toussaint de l'an 1542. En ce premier jour du rude mois de novembre, la pièce unique au rez-de-chaussée avait été chauffée par une belle flambée. Aurait-il dû écrire à la vieille Madame Cabignot pour la prévenir de son arrivée ? Il n'avait même pas pensé à se renseigner à l'avance pour savoir si elle vivait toujours à Puyvert. Mais elle était née dans ce village, y avait grandi et connu de nombreux hivers. Où pourrait-elle être sinon ? Personne ne vous répondra ici, Seigneur. Joubert se retourna et découvrit un vieil homme qui l'observait de derrière une clôture. « N'est-ce pas là la demeure de la sage-femme ?»« Ça l'était, » répondit l'homme en occitan. « La Levandiera, mort. » »« Anne Gabignot est morte ?» Les deux hommes discutent des circonstances de l'assassinat de la vieille femme, puis après un long échange, Bernard confie sa jument au vieil homme et part vers le château. Écartant de la main les fines branches sur son passage, il suivit avec précaution un étroit sentier. Des empreintes dans la terre humide et quelques rameaux brisés à hauteur d'épaule suggéraient le passage récent de braconniers. Du couvert des arbres, il pouvait désormais distinguer la silhouette de la tour gaillarde. Alors qu'il se rapprochait du donjon, il entendit les gardes du château patrouiller le périmètre. Il supposa qu'ils se retireraient à l'intérieur des murs à la tombée de la nuit. Si la chance restait de son côté, il pensait pouvoir se faufiler dans le château et en ressortir en moins d'une heure, sans être vu par qui que ce soit. Si l'objet qu'il cherchait pouvait être trouvé ici, ce serait dans le donjon. Là ! Ils furent sur lui en un instant, les bras violemment tirés dans le dos. Bernard poussa un cri de douleur, puis quelqu'un lui jeta sur la tête une cagoule en toile de jute et lui décocha un coup de pied dans la pliure des jarrets, le faisant tomber de tout son long par terre. Le goût du sang lui emplit la bouche et il avait peine à respirer. « Encore un braconnier, c'est le troisième aujourd'hui »« Emmenez-le à la tour Bossue, » ordonna quelqu'un. « Il peut y rester jusqu'au retour de la maîtresse. » Il risque d'attendre longtemps. Notre noble dame est partie à Toulouse prier pour l'âme de son époux. Ou du moins, c'est ce qu'on dit. Les soldats éclatèrent de rire. Plus probablement, elle va prier pour qu'il reste mort et enterré, le vieux gredin. Bernard sentit une main rude le pousser en avant. Ramenons-le à l'intérieur, le jour décline. Voici Bernard enfermé dans les geôles du château. Dans le même temps, à Carcassonne, Blanche souleva Alice pour l'asseoir dedans et lui enleva son bonnet. La fillette caressa avec plaisir la banquette moelleuse et veloutée. « C'est la première fois que je monte dans une telle voiture. Elle est magnifique !» Blanche prit place à côté d'elle. Le valet referma la portière. Un claquement de fouet, la lourde secousse du roues qui s'ébranlait et ils partirent. « Pouvons-nous ouvrir les rideaux ?» demanda Alice. « Pas avant d'être sortie de la cité. » L'enfant n'avait peut-être pas reconnu les armoiries de l'évêque de Toulouse sur les portières, mais d'autres le feraient et Blanche ne voulait pas qu'il voie la fillette à l'intérieur. « Lorsque nous serons sur la route, vous pourrez regarder dehors. » Ils passèrent la porte Saint-Nazaire dans le fracas des grandes roues sur le pavé, puis le sol devint plus régulier, alors que les chevaux traversaient au trot les arènes entre l'enceinte intérieure et le rempart extérieur. La disparition soudaine d'Alice entraîne des recherches qui mènent les inquiets à Puyvert. Minou, son frère, sa tante et même Piette vont prendre le même chemin pour des raisons tout autres. Et les retrouvailles de tout ce petit monde finissent dans la folie et un bûcher improvisé. Il faudra à toute l'équipe une belle dose de courage et de foi pour trouver une issue à cette épopée qui ne laissera personne indemne.